un peu plus tard après un veuvage. Juan Diego ne savait pas ces choses de première main. Il n'avait pas connu de femme comme Myriam, à l'exception de ses lectrices et de ses propres personnages. Dorothy, qui lui avait avoué l'avoir découvert parce qu'il était au programme de la fac, lui semblait encore avoir l'âge d'être étudiante, ou à peine plus. Les deux femmes n'étaient pas en route pour Manille, du moins pas encore, lui avait-elle dit. Mais il ne se rappelait plus où elles allaient après Hong Kong, si tant est qu'elle le lui avait précisé. Myriam ne lui avait pas indiqué son nom de famille, mais elle avait un accent européen, étranger aux oreilles de Juan Diego. Non qu'il fût expert en matière d'accent. Quant à Dorothy, elle ne serait jamais aussi belle que sa mère, mais elle avait une grâce boudeuse et négligée, et une silhouette pulpeuse qui pourrait faire son effet encore quelques années. « Ce fruit sera blé de bonheur, » pensait Juan Diego, conscient qu'il était déjà en train d'écrire sur ses deux maîtresses-femmes. Quoi qu'il en fût de leur identité et de leur destination, c'étaient des habitués de la première classe sur la Cathay Pacifique. Lorsque le vol 841 pour Hong Kong embarqua enfin, elles ne laissèrent pas l'hôtesse au visage de poupée lui expliquer comment mettre son espèce de grenouillère ni manipuler les commandes de son cocon capsulaire. Myriam lui expliqua tambour battant comment enfiler le pyjama de bambin et Dorothy, en véritable magicienne de la technologie, lui fit voir le fonctionnement de la couchette la plus confortable qu'il ait connue en vol. C'est tout juste si les deux femmes ne le bordèrent pas. « Je crois qu'elles me draguent toutes les deux, » songeait-il, gagné par le sommeil. La fille, c'était sûr. Elle lui rappelait immanquablement les étudiantes qu'il avait connues au fil des années. La plupart du temps, ce flirt n'était qu'un leurre. Chez les jeunes femmes de cet âge, il pensait à quelques auteurs garçonnières et solitaires de sa connaissance. Certaines ne lui semblaient maîtriser que deux comportements sociaux, la drague et le mépris. Il sombrait dans le sommeil quand il se souvint qu'il faisait une pause imprévue dans la prise de ses bêta-bloquants. Il était déjà en train de rêver lorsqu'une idée légèrement perturbante le traversa. « Je ne sais pas vraiment ce qui se passe quand on arrête les bêta-bloquants pour les reprendre ensuite. Mais le rêve, ou le souvenir, prit le pas sur son inquiétude. Et il le laissa venir à lui. » Chapitre 4. Le rétroviseur cassé. Il y avait un gecko. Les premières lueurs le faisaient fuir, accroché au grillage de la porte moustiquaire. En un clin d'œil, dans la demi-seconde qu'il fallait à l'enfant pour atteindre celle-ci, le gecko s'était volatilisé. C'était souvent sur sa disparition éclair que commençait le rêve de Juan Diego. Comme elle avait souvent donné le coup d'envoi de ses matins à Guerrero. Rivera avait construit la bicoque pour lui, mais il en avait réaménagé l'intérieur à l'intention des enfants. Quoiqu'il ne fût sans doute pas le père de Juan Diego, et en tout cas pas celui de Lupe, il avait passé un contrat avec leur mère. Malgré ses 14 ans, Juan Diego voyait bien qu'il n'en restait plus grand-chose. Esperanza, la mal nommée, ne faisait pas naître beaucoup d'espoir dans le cœur des enfants. Et elle n'encourageait jamais Rivera, ou alors Juan Diego ne s'en était pas rendu compte. Il se peut qu'il ait été trop jeune pour le remarquer. Quant à Lupe, avec ses 13 ans, ce n'était pas un témoin fiable des rapports entre sa mère et le patron de la décharge. Fiable, Rivera était bien le seul à l'être, s'agissant de veiller sur les deux gamins, dans la mesure du possible du moins. Il leur avait procuré l'unique toit qu'ils avaient eu sur leur tête, et les avait mis à l'abri d'autres situations aussi. Quand il repartait chez lui, le soir, chez lui ou Dieu sait où, il laissait à Juan Diego son pick-up et son chien. Le véhicule leur faisait un second refuge en cas de besoin, avec cet avantage que, contrairement à la bicoque, il fermait à clé. Quant au chien de Rivera, personne n'aurait osé l'approcher sinon Juan Diego et Lupe. Moitié pitbull, moitié chien de chasse, ce mâle aux allures faméliques était prédisposé au combat et à suivre une trace à l'odeur. « Diablo est agressif, » expliquait Rivera, « parce que c'est dans son patrimoine biologique. »« Tu veux dire son patrimoine génétique ?» avait rectifié Juan Diego. Comment apprécier ce degré de sophistication dans l'acquisition du vocabulaire chez un gosse de la décharge? Malgré l'attention flatteuse dont il faisait l'objet de la part de frère Pépé et de la mission jésuite à Huachaca, Juan Diego n'était jamais allé à l'école. Or, il avait appris à lire tout seul, et il parlait fort bien. Il parlait même anglais, langue qu'il pratiquait à l'occasion avec des touristes américains. À cette époque-là, les ressortissants américains présents à Oaxaca n'étaient guère que des babacools vaguement artisans et des camés ordinaires. Puis, à mesure que la guerre du Vietnam traînait en longueur, après 68, lorsqu'on avait élu Nixon sur la promesse qu'il y mettrait fin, on vit arriver les âmes perdues, ou jeunes hommes qui se cherchaient, comme les appelait Frère Pépé, lesquels souvent tentaient d'échapper à la conscription. Les drogués, Juan Diego et Lupe, avaient peu de chances de communiquer avec eux. Ils étaient trop occupés à repousser les frontières de leur conscience par les hallucinogènes pour perdre leur temps à parler avec des enfants. Les hippies mescalisés aimaient causer avec eux, au contraire, du moins quand ils n'étaient pas ivres. Il s'en trouvait qu'ils aimaient bien lire de temps en temps, même si le mescal affectait leurs méninges tout comme leur mémoire. Ceux qui fuyaient la conscription lisaient volontiers et laissaient à Juan Diego leurs livres de poche. Il s'agissait essentiellement de romans américains, bien sûr, et à les lire, Juan Diego s'imaginait vivre là-bas. Quelques secondes après que le gecko de l'aube s'était volatilisé et que la porte moustiquaire de la bicoque s'était refermée derrière Juan Diego, un corbeau prit son vol depuis le capot du pick-up de Rivera. Tous les chiens de Guerrero se mirent à aboyer. L'enfant regarda le corbeau voler tandis que Diablo, se dressant dans la benne du pick-up, poussait un hurlement si terrible qu'il fit taire les chiens du voisinage. Ce hurlement, c'était la part du chien de chasse dans son pédigré. L'autre, son ascendant Spitbull, lui avait valu de perdre la paupière de l'œil gauche, perpétuellement ouvert et injecté de sang. La cicatrice rosâtre lui donnait une expression terrible. Quant à savoir dans quelles circonstances on avait arraché un triangle de peau dentelé à l'une de ses longues oreilles avec une précision quasi chirurgicale, les paris étaient ouverts. C'est toi qui lui as fait ça, Loupé, lui avait dit un jour Rivera pour la taquiner. Il te laisserait lui faire n'importe quoi. Tu pourrais la lui manger, son oreille. La petite avait formé un triangle parfait avec ses deux index et ses pouces. Il avait fallu que Juan Diego traduise, comme toujours, pour que Rivera la comprenne. Aucun animal, aucun humain ne peut faire ça avec ses crocs, avait-elle asséné sans réplique. Les niños de la Basura ne savait jamais quand ni d'où Rivera arrivait le matin, ni comment il était descendu depuis la décharge jusqu'à Guerrero. Le plus souvent, on le trouvait endormi dans la cabine de son pick-up. Alors la porte moustiquaire qui claquait comme un coup de feu ou les aboiements des chiens le réveillaient, sinon c'était les hurlements à la mort de Diablo, une demi-seconde plus tard. Ou bien encore, un peu plus tôt, ce gecko invisible de tous ou presque. Buenos días, jefe. Lui disait Juan Diego. C'est un bon jour pour tout faire comme il faut, amigo, répondait souvent Rivera. Et il ajoutait: Où est notre petit génie de princesse? Je suis là où je suis toujours, lui lançait Lupe. La porte moustiquaire claquait derrière elle, seconde détonation, qui portait jusque dans les brasiers infernaux du basurero. Nouvel envol de corbeau. Concert d'aboiements discordants entre les chiens de la décharge et ceux de Guerrero. Nouveau hurlement menaçant qui faisait taire tous les autres, et Diablo posait sa truffe humide sur le genou de Juan Diego, au-dessous de son short en lambeaux. Les foyers flambaient depuis longtemps avec leurs monceaux d'ordures vertigineux et leurs immondices déjà fouillés. Il faut croire que Rivera allumait ses feux au point du jour, puis il rentrait faire un somme dans la cabine de son pick-up. Le basurero n'était qu'une terre brûlée. Qu'on soit sur place ou à Guerrero, les colonnes de fumée s'élevaient à perte de vue dans le ciel. Sitôt que Juan Diego franchissait la porte moustiquaire, il larmoyait, et jusque dans son sommeil, Diablo avait toujours une larme au coin de l'œil, cet œil gauche écarquillé et cependant aveugle. Ce matin-là, Rivera avait déniché un nouveau pistolet à eau dans les ordures. Il l'avait balancé dans la benne du pick-up où Diablo lui avait donné quelques coups de langue avant de s'en désintéresser. J'en ai trouvé encore un pour toi, avait crié Rivera à Lupe. Elle était en train de manger et s'était mis de la confiture sur le menton et sur la joue que le chien avait léchée. Elle lui avait cédé le reste de sa tartine. Deux vautours étaient courbés sur un chien mort au milieu de la route. Deux autres planaient dans les airs et s'apprêtaient à descendre en vrille. Sur le basolero, on trouvait au moins un